CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h aujourd'hui, autour de la table Monique Couteau qui revient sur le bilan d'activité du logement.
Oui, parce que ça donne une photographie de la situation locale sur les logements sociaux, c'est très important.
Clément qui va nous parler d'un élément important qui permet d'avoir des fruits et des légumes, la pluie.
C'est ça, j'aurais pu parler de la pluie et du beau temps, ben ce sera que la pluie.
D'accord.
Sera suivi de Jean Barbare qui va nous parler d'algorithmes dans la peau.
Oui, bonjour, aujourd'hui on va parler d'algorithmes, pas seulement de lignes de code, mais de ce pouvoir invisible qui décide de ce que vous voyez en ligne.
Sera suivi d'un petit calendrier culturel des événements locaux, et ensuite on aura comme invité Pauline Santiago qui vient pour la troisième fois à Radio VCE.
Et qui nous fera la surprise de texte.
Tout de suite, dossier personnel. Du quotidien.
Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
Peux-tu rappeler comment est organisé le service et quelles sont ses missions ?
Oui, c'est une équipe de 4 agents à temps complet qui accueille, gère les demandes et le suivi des dossiers, dont depuis le 1er juillet 2024, une inspectrice hygiène et salubrité. Alors, pour enregistrer une demande de logement social, le demandeur peut le faire par Internet sur le site du ministère grand public ou confier la saisie de son formulaire papier au service. Pour tout renseignement, le service est joignable par téléphone au 01 41 15 47 85 via un répondeur ou on peut appeler lors de la permanence téléphonique du mercredi matin ou encore, bien entendu, par mail ou encore, en fonction du problème, un rendez-vous en présentiel est proposé. Le service logement reçoit le jeudi matin au local du CCAS au créneau. Les missions, c'est bien sûr le suivi et l'accompagnement des demandeurs de logement, le partenariat avec les associations de lutte contre l'exclusion, telles Solidarité Nouvelle pour le logement, ou encore l'association Logement Jeunes Travailleurs, ou la Fondation des Apprentis d'Auteuil. Et depuis l'arrivée d'une inspectrice d'hygiène et de salubrité, la prise en charge de ces problématiques, c'est important. Son rôle est de mettre en œuvre les pouvoirs de police du maire en matière de santé, sécurité, salubrité publique, de veiller au respect des normes d'habitabilité des logements privés et locatifs sociaux. Il faut rappeler qu'un formulaire de saisie est disponible sur le site de la mairie ou en papier et que le locataire doit avoir au préalable engagé des démarches écrites en lettres recommandées avec accusé de réception auprès du propriétaire.
Quels sont les chiffres clés concernant le logement social à Chaville ?
Alors, les chiffres de la demande. La ville de Chaville est indiquée par 9 450 demandeurs en augmentation régulière sur plusieurs années. Parmi ces 9 450, 1132 indiquent Chaville en premier choix, c'est-à-dire 12%. Et 80% des ménages chavillois ayant déposé une demande de logement souhaitent être relogés dans la commune, ce qui fait 983 dossiers. Les demandeurs sont pour 60% locataires, soit en HLM, soit dans le privé. Parmi les autres, des demandeurs en résidence sociale, foyers divers ou en hébergement temporaire. Les motifs de demande sont comme les années précédentes, logement trop petit et loyer trop cher, puis en troisième position le rapprochement habitat-emploi. Les demandes pour les logements studio ou deux pièces représentent 50% des demandes, puis 25% pour les T3 et 27% pour les T4 ou plus. La proportion des demandes par ancienneté est comparable aux années précédentes. Une demande sur 5 dépasse 4 ans, soit 20% des demandes. L'attribution d'un type de HLM dépend des revenus déclarés aux impôts à N-2. Donc pour 2024, les revenus 2022 déclarés en 2023. Et 23% des demandeurs n'ont pas fourni ce document essentiel, ce qui bloque toute la demande.
Alors combien de logements sociaux compte-t-on dans le parc de logements sociaux à Chaville ?
Sur Chaville, on compte 2331 logements sociaux. Le bailleur principal est Haute-Seine Habitat avec 1208 logements, donc 54% en gestion du parc, hein, ça veut dire. Les autres logements sociaux sont répartis entre 11 bailleurs qui ne proposent pas tous les différents types de HLM. Aucun d'entre eux ne dépasse 10% du parc. On peut bénéficier de logements sociaux en fonction de son niveau de revenu. PLAI, prêt locatif aidé d'intégration pour les plus faibles revenus. PALUS, prêt locatif à usage social, qui correspond au HLM, en fait, soit plus de 80% des logements sociaux. PLS, prêt locatif social finance. Et PLI, prêt locatif intermédiaire. Ces deux derniers pour des revenus beaucoup plus élevés. Par exemple, en 2024, pour obtenir un PLAI pour une personne seule, le plafond de revenus correspond à 14 329 euros. Pour un PLUS, 26 044 euros. Pour un PLS, 33 857 euros. Pour un PLI, 48 879 euros. Et les loyers pour un studio, par exemple, vont selon la catégorie du simple à plus du double. Exemple, pour un studio de 300 euros à 624 euros. Pour un T2 de 505 ou 598 euros à 933 euros. Ou encore à 1146 euros en fonction du type de logement, si c'est un logement neuf ou pas. Donc selon le nombre de mètres carrés et la date de construction des bâtiments. Le problème pour cette année 2024, comme pour les années précédentes, est que la proportion de logements en PLAI libre n'est que de 15%, alors que 67% des demandeurs de logements sont éligibles à ce plafond. En 2024, 119 logements ont été attribués dans notre commune. On note une forte accentuation dans les attributions aux familles monoparentales et aux personnes seules parmi les entrants. En 2024, le taux SRU, loi Solidarité et Renouvellement Urbain, est de 25,89% en Achaville.
La question du logement reste un problème pour de nombreuses familles. La rénovation des grands ensembles d'HLM de Chaville a été annoncée par Haute-Seine Habitat, comme il a été évoqué dans une émission précédente. Le besoin de logement à faible loyer reste une question majeure, y compris dans ces futurs logements rénovés. Le groupe Vivons Chaville suit de près cette question pour contacter le service logement. 01 41 15 47 85. Vous pouvez bien sûr venir aussi le samedi après-midi à notre local si vous avez besoin d'aide pour remplir votre dossier. On poursuit l'émission avec Clément qui va nous parler de la pluie. À table avec Clément Chassin.
Et oui, alors d'habitude je prends un légume et je parle de légumes, voilà. Et cette semaine, enfin un sujet passionnant, je vais parler de ma vie. Puisque okay. Là, cette semaine, je suis allé visiter une ferme.
Oh, c'est incroyable.
Voilà, la ferme de mon maraîcher, voilà.
Formidable.
Formidable, et du coup on a pas mal parlé de pluie, effectivement,
oui.
Parce que l'an dernier il y a eu beaucoup d'eau, et du coup cet excès d'eau, la terre a bien absorbé cet excès d'eau, alors c'est formidable parce que l'eau est bien gorgée, terre est bien gorgée d'eau, et ça fait bien pousser les plantes,
voilà.
Du coup c'est chouette.
Ah.
Voilà, sauf que ça fait pousser toutes les plantes, y compris les herbes.
Et oui.
Et que les herbes, elles poussent plus vite que les légumes qu'on veut faire pousser.
Et oui.
Et du coup, c'est un vrai problème pour les agriculteurs bio. Voilà. Donc, alors par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a le galinsoga, qui est une mauvaise herbe qui couvre les
mauvaise
betteraves.
Mauvaise herbe, une adventice.
Une adventice qui couvre les betteraves. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il a fait le maraîcher? Il a tout broyé là il y a 15 jours. Et en 15 jours, c'est reparti. Les galinsoga ont déjà recouvert les betteraves et enfin il s'en sort pas. Donc voilà. D'habitude je parle de légumes et de qu'est-ce qu'on peut manger en ce moment tout ça. Bon alors je crois que là déjà pour les betteraves cet hiver. Pour moi, ça va être chaud. Alors, on se retrouve aussi avec le panique. Superbe nom quand même pour un adventiste.
Ouais.
Voilà, qui s'est foutu dans les poireaux. Et alors là, il me disait, si tu tires sur le panique, en fait, t'arraches le poireau avec. Eh, rigole pas, c'est sérieux.
Non, mais c'est dramatique ce que tu
C'est dramatique. C'est dramatique. C'est dramatique, surtout que bah, du coup, il s'est retrouvé avec un rang de poireaux qu'il a dû laisser tomber. Il s'en occupe plus. Voilà,
mais il a pas trop tiré sur le poireau.
Non, c'est pas le poireau. Là, il a tiré sur le panique.
Ah oui, d'accord, ok.
Il faut suivre.
Oui, d'accord.
Voilà.
Panique, pas poireau.
Bon, bref. Okay, donc là, il y a eu trop. Oui, il y a eu beaucoup trop de pluie l'an dernier, c'était terrible déjà.
Quelle aventure.
Là, en septembre, on a eu un épisode pluvieux.
Qu'est-ce que ça va être après ?
80 mm.
Alors, les carottes.
Donc, chez lui, il est tombé 80 mm d'un coup. Donc, quand il tombe 80 mm là dans ses champs, il y a des endroits où pendant 15 jours, il n'a pas pu intervenir. Donc, là, laisse tomber, les mauvaises herbes, elles se sont données à cœur joie. Voilà. Et encore 80 mm, c'était pas le pire. Il est dans une vallée. Le voisin qui est en bas de la vallée, il a eu 200 mm dans la journée. Ouais. Et donc, quant à ça, t'as plus qu'à pleurer. Voilà. Donc, par exemple, là, chez lui, chez mon maraîcher, les pluies ont bien lessivé la terre et ont emmené les épinards. Donc, cette année, hop, voilà, les épinards, pareil. Alors, il nous a montré un endroit dans son champ où il y avait de la terre. Il nous a dit, bah là, avant, il y avait des épinards, mais quand il n'y a plus, bah, ils ont été lessivés. On les a retrouvés en bas du champ, ailleurs, je ne sais pas. Enfin, voilà. Donc, les épinards, c'est mort. Ce qu'il y a, c'est aussi, c'est un petit maraîcher. Tout ça, c'est quand même des dizaines de milliers d'euros de plants qu'il a achetés pour pouvoir les planter. Et qui ne va pas récolter. Ouais. Donc, c'est une
mais il n'y a pas des astuces comme ça, justement, bon, bah, pour éviter de créer un effet bassine dans les plantations. Il n'y a pas des tranchées, des sillons
enfin, que... Non. des coups comme ça, il n'y a rien à faire. Quand tu as 80 mm qui te tombent dans la matinée. Oui.
Mais c'était une surprise pour lui, ça arrive souvent.
Ça a été une surprise pour tout le monde. Et ça n'arrive pas, enfin, ça va arriver.
À cette saison-là, ça n'arrive normalement pas.
Bon, il faut réfléchir à.
C'est ce qui s'appelle le changement climatique.
Voilà.
Et ça va nous arriver de plus en plus,
pour que ça ne revienne pas.
Voilà. Donc voilà, donc là il y a eu les pluies. Alors je t'épargne les acariens qui lui ont bouffé les concombres et les haricots, les altises qui ont bouffé les choux-fleurs et les choux de Bruxelles, et une partie des choux frisés.
Apocalypse.
Ouais, ce qu'il y a, c'est que du coup ça fait quand même beaucoup de choses qu'on pourra plus manger, et puis ça fait une vraie perte
pour les petits paysans
locaux. Voilà, donc on ne dira jamais assez, soutenez les petits paysans. Voilà. Et comme j'en étais à parler de ma vie, parce que c'est passionnant, quand je visite pas des fermes, je lis des études. Et là, cette semaine, j'ai aussi lu une étude de l'Arizona State University, un truc ultra sérieux, qui a utilisé des données de la NASA sur plus de 20 ans sur les réserves d'eau terrestre. Et depuis 2002, 101 pays ont perdu en eau douce, et ça touche 75% de la population mondiale. Alors, notamment... Dans ces pays-là, c'est notamment en Amérique du Nord et dans une bande en Eurasie qui va grosso modo de l'Europe centrale au sud de l'Asie. Ouais, c'est assez vaste. Donc cette étude nous dit que les zones qui subissent cette perte en eau augmentent de à peu près deux fois la taille de la Californie chaque année. Ouais, c'est trois fois rien. Hein. Voilà. Donc on est passé de zones sèches, de petites zones sèches par-ci par-là, à ce qu'ils appellent des méga drying regions, donc des méga régions de sécheresse, quoi, qui traversent l'hémisphère nord. Donc là, t'as des bandes complètes en travers de l'hémisphère nord, où on perd de l'eau douce utilisable. Du coup, d'habitude, je fais une chronique pour dire qu'est-ce qu'on mange.
Ouais.
Alors là, j'ai juste envie de dire soutenez les petits paysans, parce que, effectivement, comme je disais tout à l'heure, la terre absorbe quand il pleut. Donc, il faut qu'on maintienne des petits paysans, parce que sinon, on va avoir des inondations, on va avoir plus en plus de catastrophes. Soutenez les petits paysans, parce que les petits paysans, ils s'adaptent, ils essaient de trouver des solutions. Donc là, par exemple, mon maraîcher, il m'a dit, il va essayer de décaler de 2-3 semaines son calendrier pour planter, parce que il essaie de s'adapter au changement climatique. Soutenez les petits paysans qui ne vont pas construire des méga bassines, qui ne vont pas puiser dans les réserves d'eau, qui ne vont pas accélérer la catastrophe climatique et l'épuisement des ressources en eau. Voilà, mangez ce que vous pouvez, mais soutenez des petits paysans locaux, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, Clément. Le message est passé. Tout de suite, Jean Barbard qui va nous parler d'algorithmes dans la peau. De tout et de rien avec Jean Barbard.
Bonjour, quand Donald Trump pose à côté de sa signature, c'est rarement pour des clopinettes. Après les droits de douane et toute une série de décrets qui visent à nuire à l'état de droit, c'est au tour de TikTok de passer par le bureau ovale. Au menu, une vente forcée à des investisseurs américains. En clair, vendez ou sortez du pays. Officiellement, pour protéger la sécurité nationale, officieusement, pour garder la main sur l'algorithme. Car ce n'est pas seulement une application qui est en jeu, mais le code invisible qui décide de ce qui devient
devient viral, de ce qui reste enfoui et qui peut peser parfois sur une élection. Entre les fermatrolles et les campagnes de désinformation, on sait que le numérique est devenu un champ de bataille politique. L'Europe, elle, répond, mais toujours à réaction. RGPD, DSA, DMA, de belles murailles réglementaires, mais dressées après les incendies. Jamais pour prévenir le feu qui couve dans la machine même, l'algorithme. Alors, certains murmurent si les Américains ont imposé la cession de TikTok, pourquoi l'Europe ne ferait-elle pas pareil? Alors, ce que ça révèle, eh bien, c'est que l'Europe est impuissante face à l'autorité d'algorithme. On pourrait se dire qu'imiter Trump en achetant Meta, TikTok ou X serait une bonne idée, mais c'est surtout une illusion hors de portée. TikTok seul vaut quelques dizaines de milliards, alors que Meta en pèse pour près de 2000 milliards. À l'échelle européenne, même à 27, l'addition est impossible. Et au-delà de l'argent, il y a le droit international. Les États-Unis peuvent s'attaquer à ByteDance parce qu'il s'agit d'une entreprise chinoise, donc un adversaire stratégique. L'Europe, elle, n'expropriera pas Meta, une entreprise américaine. Ce serait une rupture diplomatique majeure. Mais la vraie limite est ailleurs. Dans ce que décrit Asma Mala comme un léviathan à deux têtes, l'alliance du Big Tech et du Big State joue un pouvoir dans des institutions, mais également dans des infrastructures algorithmiques. Les filtres, les classements, les flux qui dessinent notre propre perception. Certains parlent d'algorithmocratie, un régime où les algorithmes, en abritant la visibilité et la légitimité, deviennent les véritables gouvernants de nos vies numériques. Pas besoin de censeurs, un simple calcul suffit à faire disparaître une idée. Et l'Europe, malgré ses lois, reste dépendante d'infrastructures qu'elle ne contrôle pas. Alors que pouvons-nous faire, nous, à Chaville? Déjà, on peut choisir d'autres outils. Mastodon, Wire, Peertube, PixelFed sont des alternatives libres et européennes. Chaque utilisateur qui s'en va fragilise un empire. Nous pouvons aussi affûter notre libre arbitre. Ce que vous voyez sur Internet n'est jamais neutre. Nous sommes filtrés et le savoir s'est déjà commencé à résister. Ensuite, donner du poids aux alternatives. Soutenir les projets locaux, les coopératives numériques, exiger des décideurs qu'ils financent nos propres infrastructures a du pouvoir. Et enfin, on peut demander des comptes. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Utiliser le DSA pour signaler quand une plateforme ne respecte pas ses obligations, participer aux consultations de l'Union européenne, soutenir des collectifs comme le Quadrature du Net et surtout choisir au quotidien les services qui jouent la transparence. Bref, faire pression en haut, agir en bas et montrer aux géants que notre attention n'est pas gratuite. Pour finir, ne rien faire, c'est laisser la culture du vide l'emporter, laisser le bruit contrôler nos vides et continuer sur une voie peu envieuse d'une dictature de l'arbitraire pilotée par ceux qui veulent toujours plus.
Merci beaucoup Jean Barbare, merci pour cet instant poétique et politique. Tout de suite, on passe à l'événement culturel avec la chronique bande-annonce. Bande-annonce avec Marilyn Anespez.
Oui, alors d'abord, je voudrais remercier Marilyn Lanaspès qui ne pouvait pas être là, mais qui a préparé cette petite mise au point sur les événements culturels proches. Donc, tout d'abord en littérature, le prix des libraires en scène 2025. Le 18 juin a été dévoilé le gagnant parmi 6 livres présélectionnés lors d'une fastueuse soirée au centre événementiel de Courbevoie. Il s'agit de La Petite Bonne de Bérénice Picha, qui a été sélectionnée parmi dans 15 librairies indépendantes de l'Ouest parisien. On peut se procurer cette œuvre à la librairie de la Pointe de Chaville. Et la librairie de la Pointe de Chaville fait également sa rentrée littéraire. Le rendez-vous est le samedi 11 octobre à partir de 17h à la médiathèque au deuxième étage de l'Atrium pour une soirée coup de cœur de la rentrée. En ce qui concerne les langues, l'association des jumelages chavillois organise 2 types d'événements mensuels. Un événement qui s'appelle Séries et Books, c'est un groupe de discussion en anglais pour débattre autour de séries TV, de livres et autres sujets variés. C'est le samedi matin de 10h30 à 12h à la MJC de Chaville. La première de ces séances est le 11 octobre. Le site annonce les dates suivantes. Notez aussi le Café Polyglotte. Parlez dans une langue étrangère de ce qui vous tient à cœur. Choix entre l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français. Le jeudi de 19h à 20h30, à date définie et dans des lieux variés. Le 16 octobre, ce sera au pub, au bureau. Le cinéma de Chaville et celui de Sèvres, puisqu'ils sont un peu jumelés, simplement penser à consulter le programme sur le site de la ville et dans les lieux publics où il est déposé. Elle a noté aussi qu'il y avait eu une séance de théâtre le 20 septembre à l'école Paul Bert, où avait été jouée la pièce Lysistrata, mon amour, de Matéi Wisniewski, hein, qui est une comédie d'Aristophane qui a été revisitée par le dramaturge franco-roumain et qui a été mise en scène par notre amie chavilloise Agnès Delcourt. Enfin, en ce qui concerne les arts plastiques, Avis Reflet noté à la galerie à l'Écu de France chaque année la saison qui débute par le salon du souvenir de Corot. Ce 74e salon est placé sous le signe des reflets en hommage à Rennefer, peintre et illustrateur. Les dates 1879-1957, où il exprime son amour de l'eau et de ses reflets dans ses œuvres sur Paris et ses environs. Ce peintre a été classé parmi les post-impressionnistes, hein, les peintres de la réalité moderne ou encore les intimistes. Il a souvent été associé à Corot, Marquet et Signac. Et on a jusqu'au 12 octobre pour découvrir les œuvres inspirées par les jeux de lumière et de miroirs. C'est ouvert tous les jours, sauf lundi et jours fériés, de 14h à 19h. Enfin, à Paris 16e, une exposition des œuvres de Valérie Griffon, qui est déjà venue exposer ici dans notre local, les 11 et 12 octobre, de 10h à 18h, à l'atelier Les Artistes, 44 rue Claude Terrasse, c'est à Paris 16e. Pour un tout petit peu plus tard, pour le mois d'octobre, Avis Reflet, toujours à la galerie à l'Écu de France, une exposition qui s'appellera L'art du trompe-l'œil. Le trompe-l'œil, c'est aussi ancien que l'Antiquité. Ça crée des illusions optiques si convaincantes qu'elles donnent l'impression d'éléments tridimensionnels sur les surfaces planes. Du 17 octobre au 7 décembre, tous les jours, de 14h à 19h. Et à Garches, du 3 au 19 octobre, à l'Hôtel de Ville, 90 artistes sont présents, regroupant plusieurs disciplines, peinture, dessin, gravure, sculpture. Deux artistes chavillois y participent cette année, Pascal Wörth, plasticienne et de la lumière, et Jean Langlois, archipeintre. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez un petit temps, à profiter de tout cela.
Merci, tout de suite la chronique à portée de parole avec Pauline Santiago. À portée de parole, les Chavillois prennent le micro.
Alors Pauline, tout d'abord, tu voulais nous faire part d'un film qui t'a beaucoup ému.
Par hasard, l'autre soir, en zappant, je suis tombée sur un film qui m'a replongée dans mon passé de petite fille de 8 ans pendant la guerre. Ce film, adapté du roman éponyme de Tatiana de Ronet, ce n'est pas une histoire vraie, mais malheureusement bien réaliste. On peut le voir sur Prime Video. Julia, journaliste, Christine Scott Thomas, américaine, installée en France depuis 20 ans, enquête sur l'épisode douloureux de la rafle du Vendiv. Ce film est sorti le 18 octobre 2010, film fictif, mais malheureusement, les faits et le contexte historique sont bien réalistes. L'histoire croisée d'une petite fille, arrêtée avec ses parents, nous fait entrer dans un monde cruel. L'atmosphère de ces années est très bien rendue. Rues, magasins, autobus, emmenant les Juifs dans les camps français et ensuite déportés en Allemagne. Atmosphère lourde dans un Paris sombre. La vision des camps nazis est bien rendue. L'évasion aussi des petites filles qui ont réussi à attendrir un soldat allemand qui les a aidés à s'enfuir, un trait d'humanité dans le monde barbare. Puis le voyage en Amérique de la journaliste à la recherche de Sarah et de sa famille. Hélas, Sarah est morte. Il y a encore son mari à qui elle raconte l'histoire, mais il est incrédule. Sarah ne lui a jamais raconté sa vie antérieure. Puis ils retournent à Paris. Et là, il est convaincu par des preuves. Je ne vous raconte pas la fin de ce film, à chacun de le découvrir. Peut-être ai-je particulièrement été ému, car j'aurais pu être Sarah, mais le destin en a décidé autrement. Je vous encourage à regarder ce film et à le montrer à vos enfants, pour que de tels faits ne puissent jamais se reproduire. Il faut vivre d'espoir.
Merci Pauline. Et puis tu voulais aussi nous lire un texte beaucoup plus personnel que tu as préparé.
Pensez, nous voilà un dimanche matin ensoleillé, deux jours avant ma fête d'anniversaire. Je suis contente d'avoir de nouveau autour de moi mes amis, des préparatifs certes, mais je suis sereine, tout est organisé ou presque. C'est le soir, dommage, on sera à l'intérieur, mais on se servira. Ce sera une ambiance chaleureuse, tout au moins j'espère. Cette fête sera importante pour moi, tout un passé sera évoqué, beaucoup d'émotions, quelques amis seront absents, éloignement, maladie, la vie quoi, comme le disent les braves gens. Aujourd'hui, belle journée, Makuta va passer un moment, un rayon de soleil. Cela fait tellement de bien, ma perle noire. Quant à la situation internationale, toujours de plus en plus insoutenable et incompréhensible. Le monde va mal, des guerres et bien sûr leur lot de massacres, de famines, sur des peuples qui ne veulent que vivre libres et que l'on extermine. Quelques courageux qui essaient de braver les obstacles pour crier l'indignité, mais ils crient dans le désert. Des révoltes partout, les jeunes qui s'indignent manifestent dans les rues, mais les dictateurs sont sourds. L'histoire se répète depuis des siècles et l'humanité ne trouve pas de solution. Et puis Dame Nature se fait entendre, engendrant les catastrophes, comme si elle aussi veut participer au chaos général. Mais les hommes sont complètement sourds. Et puis que faire aux dictateurs assoiffés de domination au prix de leurs semblables? Comment garder une goutte d'espoir au milieu de cette horreur, surtout pour les générations futures? Je n'ai malheureusement pas de réponse. Qui en aura? Vivre le moment présent, essayer d'acquérir la philosophie d'Edgar Morin, 104 ans, est toujours joyeux, qui nous apporte une goutte d'espoir.
Merci Pauline, mais tu ne nous as pas dit à quelle occasion était cette fête d'anniversaire organisée chez toi. Est-ce qu'on peut le dire?
L'occasion.
C'est pas 104 ans.
C'est pas 104 ans, mais c'est 90.
Voilà. Bravo. Bravo.
Merci.
Merci à tous. Merci d'avoir suivi Radio VCE. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous suivre, je vous le rappelle, sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de podcast. C'était Jonathan Denuy sur Radio VCE.